appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, a annoncé la semaine dernière la convocation imminente du Congrès pour valider l'état d'urgence décrété par le chef de l'État. Certains observateurs estiment que la RDC est en état d'urgence sanitaire de fait et non de droit parce que la procédure n'a pas été respectée conformément à l'article 166 de la Constitution. D'où les congrès pour en définir les modalités. Une autre opinion pense les contraires. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a déclaré hier conforme à la Constitution l'état d'urgence décrété par le chef de l'État. Alors comment commentez-vous cette actualité? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69. Vous pouvez aussi commenter ces sujets sur notre page Facebook. Vous êtes près de 10 450 personnes à avoir lu ces sujets et commenté. Et 120 parmi vous ont pu, les partager avec d'autres compatriotes. Merci à tous de l'intérêt que vous accordez à nos différents sujets proposés pour le débat dans ces programmes sur Radio Okapi. À toutes et à tous, bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu. Cette émission Parole aux auditeurs est une rediffusion.
Alain Bolodjo, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour Alain.
Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde.
Alors comment commentez-vous cette actualité?
Bon, moi je crois que c'est vraiment un signe de démocratie où on sent que les débats sont lancés et chacun donne son avis par rapport à sa conviction. Mais ce qui est vrai, c'est que moi, personnellement, je considère que la procédure n'a pas été respectée. Hein, apparemment, il y a une question qui a été mal posée à la Cour. Elle a tenté de donner la réponse par rapport à cette question. Mais dans le fond, la situation reste comme telle. Il faut d'abord constater que dans la démarche de M. Félix Tshisekedi, je ne sais pas si M. Félix Tshisekedi a procédé par la concertation avec les autres institutions ou sinon, ils ont reçu l'information comme tous les autres. Parce que si nous prenons l'article 85, bien que je ne sois pas constitutionnaliste, mais du moins c'est un texte que nous pouvons comprendre et aussi analyser. Il s'agit de la concertation, c'est-à-dire que la décision doit être prise de manière consensuelle. Monsieur Félix Tshisekedi ayant constaté qu'il y a des problèmes, il doit consulter les deux chambres, mais aussi le gouvernement, pour qu'ensemble ils dégagent une vision et lui ne fait que la déclaration. Dès qu'il déclare l'état d'urgence, la procédure voudrait assez que les mesures de mise en application, les mesures d'application de cette déclaration doit être conçue au niveau du gouvernement. Et lorsque le gouvernement émet son avis par rapport à l'approche, le Parlement doit prendre une loi. Ça, c'est ma compréhension de l'article 84, l'article 144 et 145. Mais si on nous dit que la démarche de M. Félix Tshisekedi est conforme à la Constitution, c'est par rapport à la déclaration et non par rapport aux mesures d'application. Parce que les mesures d'application exigent assez que ça soit conçu au niveau du Conseil des ministres. Je ne sais pas s'il y a eu convocation du Conseil des ministres. On a statué sur les questions. Je ne sais pas s'il y a une loi qui sous-tend cette démarche. Parce qu'il ne suffit pas seulement de nous dire que non, la Cour constitutionnelle a tranché. Oui, mais la Cour constitutionnelle a tranché par rapport à quelle question? Est-ce la question de déclarer l'état d'urgence ou la question des mesures de mise en application? Dès lors qu'il n'y a pas cette démarche-là, eh bien, ça pose problème. Parce que, en suivant le président du Sénat, apparemment, ils n'ont pas été consultés. Ce qui sous-entend que la démarche n'a pas abouti. La moindre chose à faire, de mon point de vue, c'est de chercher à corriger. Parce qu'il va se poser un problème. Lorsqu'il va s'agir de prorogation et qu'il n'y a pas de soubassement, lorsqu'on prend des mesures que je considère salvatrices dans une certaine mesure, mais lorsque ces mesures-là n'ont pas de soubassement, le soubassement légal, ça va poser des problèmes dans l'application. Voilà pourquoi, moi, personnellement, je considère qu'on doit convoquer le Parlement, Je ne sais pas si on doit le faire de manière séparée ou on doit convoquer les congrès. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un soubassement légal qui va permettre à ce que la démarche de M. Félix Tshisekedi ne soit pas en violation de la Constitution. Parce que je ne vois pas la Cour constitutionnelle se prononcer sans qu'il y ait un procès verbal attestant que les autres institutions ont été consultées.
Oui, mais Alain Bolodjoie, comment commentez-vous la sortie de la Cour constitutionnelle dès lors que le président du Sénat avait déjà annoncé avec pompe la convocation imminente du Congrès? Et pensez-vous comme les autres que finalement on se retrouve là devant un signal fort d'une crise latente qui pourrait éclater dans les jours à venir?
Non, mais la crise n'est pas latente. Là, ce sont des faits. La crise est déjà là. Apparemment, c'est comme si l'approche de ceux qui soutiennent la démarche de M. Félix Tshisekedi est plus politique que juridique. C'est comme s'ils voudraient que l'on comprenne qu'au-delà de ce que nous entendons, il y a des visées au niveau de leurs partenaires. C'est-à-dire que comme si le Congrès était convoqué pour autre chose. Mais si le Congrès était convoqué pour corriger les imperfections de la décision de M. Félix Tshisekedi, la moindre chose, un peu de galanterie, il devait supporter. Mais le fait seulement qu'ils s'acharnent sur cette démarche, c'est comme s'ils ont eux aussi, de leur côté, un agenda caché. Voilà pourquoi j'ai dit la crise a toujours été là, mais aujourd'hui, nous sentons les effets de la crise. Parce que je ne vois pas le président du Sénat convoquer le Congrès dans l'intention, par exemple, de mettre en accusation M. Félix Tshisekedi. Ça, ce n'est qu'un cas. Ce qui veut dire que la démarche du Sénat va aller dans le sens de prendre une loi. Parce que dans la disposition de l'article 85, qui renvoie à l'article 144 et 145, apparemment, il faut qu'il y ait une loi. Mais cette loi-là ne sera pas édictée ou ne sera pas élaborée au niveau de la présidence. On doit faire en sorte que toutes les institutions participent. Parce que le jour où on va arriver à la fin du timing fixé par M. Félix Tshisekedi, on aura besoin du Parlement. Alors si le Parlement n'arrive pas à anticiper, eh bien ça sera bloqué. Parce que jusque-là, nous ne voyons pas ce que la présidence peut faire sans le Parlement. Et moi, personnellement, je considère qu'une fois de plus, la Cour a été instrumentalisée. Parce que je ne vois pas pourquoi la Cour a été saisie, dès lors que la question a suscité débat il n'y a pas 5 jours, avec la précipitation avec laquelle la Cour s'est prononcée.
Ouais, merci beaucoup Alain Bolodjoie d'avoir appelé. Nous allons recevoir également Christian Bosembe qui est à Kinshasa. Il est journaliste d'ailleurs. Christian, vous êtes avec nous, bonjour. Christian, vous êtes avec nous?
Bonjour, vous allez bien et tous les auditeurs de Radio Capi.
Alors Christian, la question que je venais de poser tout à l'heure à Alain Bolodjoie, est-ce que la sortie de la Cour constitutionnelle n'annonce pas une crise latente, le fait que le président du Sénat a pris une décision de la convocation imminente du Congrès de manière unilatérale, sans que le chef de l'État s'en tenu compte de l'état dans lequel nous nous retrouvons maintenant, l'état d'urgence, voulais-je dire?
Alors, je voudrais d'abord commencer par dire que, vous savez, il y a un jour, c'est Socrate, je crois, si je ne me trompe pas, Socrate s'étonnait du fait que la gestion de la cité était entre les mains d'autres personnes que les philosophes. Et il y a un constat amer dans mon pays, c'est que le débat de droit, le débat de fond, malheureusement, de droit est, pour la plupart des cas, porté par des non-juristes. Ça veut dire des gens qui lisent la Constitution comme si c'était un livre, tout simplement. Pourtant, la Constitution a tout un cours. On enseigne à l'université la Constitution. Et l'interprétation de la Constitution, elle est encore beaucoup plus dangereuse quand on veut s'y hasarder. Les articles de la Constitution sont bien clairs. Nous sommes le seul pays au monde où les individus qui ne sont pas allés en droit peuvent quand même contester l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Je suis totalement dépassé. Et vous avez entendu mon co-débatteur qui, lui, est dans les à peu près, carrément. Il n'est pas suffisamment informé sur la question. Il pense, par contre, alors que en matière de droit, on ne pense pas, on le dit. Il n'y a pas une autre instance beaucoup plus outillée, beaucoup plus compétente que la Cour constitutionnelle. Et les arrêts de la Cour sont erga omnes. Ça veut dire opposable à tout le monde. Il faut rappeler aux gens que cette Cour constitutionnelle, qui autrefois était la rusée du monde, Aujourd'hui, cette cour vient de redire la vérité. Mais cette cour n'a pas dit la vérité, elle l'a pas inventée. Elle se fonde sur un article fondamental sur la question de la proclamation de l'état d'urgence, c'est l'article 85. Tous les articles qu'on cite après, l'article 116, l'article 119, l'article 144, 145, ne puisent leur force que dans l'article 85. Monsieur Alexis Thambo Mwamba s'est trompé, il a plongé dans un juridisme outré, ce que moi j'appelle un banditisme constitutionnel, parce que là il veut nous amener dans une errance juridique. Ça veut dire il veut s'approprier le droit d'interpréter une constitution ou alors de faire le travail de la Cour constitutionnelle. Le président n'a pas déclaré un état de guerre, non, pour requérir son autorisation. Le président a proclamé un état d'urgence. Et avant de faire l'état d'urgence, le président a respecté blanc, noir sur blanc la Constitution. Je vous rappelle qu'il a invité à son cabinet, il a invité le Premier ministre, comme le veut la loi, il a invité la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. La question qu'on doit poser à M. Thambo Mwamba, c'est de nous dire qu'est-ce qu'ils se sont dit avec le président. Pourquoi ne l'a-t-il pas révélé après? Alors, il dit qu'ils ont été surpris. Bon, je pose la question. C'est quelle lenteur, c'est quelle légèreté avec laquelle on conduit le pays? Ça veut dire un président de la République peut proclamer un état d'urgence deux semaines après, des personnes qui sont payées jour et nuit pour contrôler l'appareil, eux ont pris le temps deux semaines après pour nous dire, bon, on est surpris. Ils étaient surpris quand? Deux semaines après ou la minute où le président l'a déclaré. Mmh. Et puis pire encore, lorsqu'ils veulent, le Congrès veut être appelé. Mais il y a un élément important. Le Congrès ne peut pas être appelé sur base de la régularisation de l'ordonnance du président de la République. Pas du tout. Parce que l'article 3.3 du règlement intérieur du Congrès établit énumère les matières qui peuvent faire l'objet de l'appel du Congrès. C'est l'audition du président de la République, c'est la révision de la Constitution, il faut enlever l'article 220 parce que c'est sous réserve, et puis une autre matière. Ce qui veut dire tout simplement que régulariser l'ordonnance du président, ce n'est pas l'apanage du Sénat. Non, là, M. Thambo Mwamba veut exposer le Sénat. Et c'est exposer le Sénat à la honte, mais surtout à la brutalité constitutionnelle. Nous avons assez de traumatiser la Constitution. Ce traumatisme a assez duré. Il faudrait, à un moment donné, laisser la justice faire son travail. Disons, toutes les fonctions traditionnelles, comme le dit Montesquieu dans son livre Esprit de loi,
oui, Christian.
Il faudrait que toutes ces fonctions fonctionnent convenablement.
Oui, Christian, je vous ai posé tout à l'heure une question.
Donc, la Cour
avant de poursuivre.
Oui. Pour répondre à votre question.
Oui. Alors, donc, pour répondre à l'autre question, vous l'avez dit, la Cour constitutionnelle a raison. Est-ce que vous pensez que des points de vue contradictoires entre les Sénats, qui constituent la chambre haute du Parlement, ça donne à la deuxième lecture dans cet exercice législatif, tomber facilement dans l'erreur en interprétant mal les articles de la Constitution? Est-ce que pensez-vous vraiment que il y a une erreur dans l'interprétation?
Oui, il y a une erreur grave, très grave, parce que si on lit avec vous l'article 144, 145 de la Constitution, quand on parle de le Congrès peut être convoqué, il faudrait rappeler que le président doit demander, c'est le président expressement. Ce n'est pas une compréhension du Sénat, non. Le président doit demander. Il doit faire la demande pour que le Congrès se réunisse pour voir si on peut proroger ou on peut arrêter. Mais jusque-là, aucune demande n'a été faite. La preuve, aujourd'hui, au moment où nous parlons, le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale et le Premier ministre, mais ils sont reçus par le président. Pourquoi sont-ils reçus par le président? Mais c'est pour qu'ils aient dissipé les malentendus, pour faire comprendre à M. Thambo Mwamba que vous n'avez pas l'obligation d'appeler le Congrès. Et sur toute la ligne, M. Thambo Mwamba se trompe. Je dois rappeler aux Congolais une chose. La tenue du Congrès coûte à l'État congolais 7 400 et quelques mille dollars. Et
quelle est votre source, Christian? Parce qu'on n'a jamais évalué
ça. Oui, ma source a été publiée par le vice-président, premier vice-président de l'Assemblée nationale.
Et le président du Sénat, le président de l'Assemblée a rejeté en bloc.
National,
Jean-Marc Kabound.
Monsieur Marc Kabound, il le dit si bien qu'il faut au moins 7 millions. Alors, je voudrais revenir sur un élément. Comment on va dépenser 7 millions pour un congrès qui est du reste inutile, de nature à mettre la pression sur le président de la République pour qu'il en qu'il essaie de ralentir au niveau judiciaire parce qu'il y a des révélations accablantes sur l'ancien régime, je me pose beaucoup de questions. Donc, 7 millions de dollars, alors que la riposte a besoin de 135 millions de dollars que nous n'avons toujours pas obtenus. Nous avons refusé qu'on donne 6 millions pour fêter l'alternance. Comment nous allons accepter de fêter, de donner 7 millions pour la tenue du Congrès? Un autre détail très important, c'est que l'une des mesures de l'état d'urgence, c'était ceci. Pas d'attroupement de plus de 20 personnes. Alors, l'Assemblée nationale a 500 députés. Le Sénat a plus de 108 personnes. Ça veut dire qu'ils vont aller là-bas avec les risques de contamination. Alors, c'est pourquoi moi, j'avais demandé, si le Congrès est tenu, alors dans ces cas, toutes les églises vont devoir s'ouvrir. Tous les bars vont devoir s'ouvrir et le funérarium devront aussi s'ouvrir. Parce qu'il n'est pas question que certaines personnes aient la latitude de violer la loi. Là encore, je vais citer un livre beaucoup plus important, c'est l'Esprit des lois. Montesquieu interpelle les décideurs. Il leur demande de créer des lois capables d'arrêter tout le monde et non des lois qui sont comme des toiles d'araignée.
Voilà, merci
qui
beaucoup.
Les insectes et qui se brisent comme des.
Merci beaucoup, Christian.
Donc, alors, nous devons tous respecter la loi.
Merci
et
beaucoup.
Les législateurs et l'exécutif.
Merci
et
beaucoup, Christian, voilà, OCB, d'avoir appelé d'intervenir dans cette émission. Alors, on va poursuivre avec vous, avec Jean-Paul, qui est à Bounia. Jean-Paul, vous êtes avec nous. Bonjour, Jean-Paul.
Bonjour, monsieur le journaliste, je suis à Bounia.
Quelle est votre contribution, Jean-Paul?
Ma contribution, c'est que, à mon humble avis, je constate qu'il y a quelques mois ou bien quelques jours, constatant le président de la République, fait un discours ou bien se proclame à l'opinion publique.
Voilà, on a du mal à suivre ce que vous dites. Jean-Paul, vous sortez comme dans une caisse, c'est vraiment difficile. On ne peut pas vous garder le plus longtemps possible en ligne. On retrouve notre invité, professeur André Mbata. Vous êtes avec nous, vous nous avez rejoint. Bonjour, professeur Mbata.
Bonjour, Radio Capi.
Oui, professeur André, l'état d'urgence divise plus d'un. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre sur l'état d'urgence? Est-ce un régime exceptionnel?
Bon, je crois qu'on est s'agissant de l'état d'urgence, d'entrée de jeu, permettez-moi de féliciter pour, une fois n'est pas coutume, féliciter les membres de la Cour constitutionnelle de notre pays pour l'arrêt qui a été pris hier et confirmant comme constitutionnel l'ordonnance du 24 mars de proclamant l'état d'urgence sanitaire, l'ordonnance qui était prise par le président Félix Tshisekedi. Je crois que c'est une décision, un arrêt très très important dans l'histoire de notre pays. Et pour la première fois, nous avons une Cour constitutionnelle qui s'assume. Et pendant 18 ans, on n'a pas vu des choses pareilles. Je crois qu'il faut féliciter non seulement les membres de la Cour, mais aussi le président Félix Tshisekedi qui permet enfin que la RDC renoue avec le constitutionnalisme. Donc c'est une décision importante et je suis heureux que vous ayez le temps pour en discuter. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il s'est agi d'un coup d'État manqué. Il s'est agi en réalité à RDC d'un coup d'État constitutionnel manqué lorsque vous avez suivi les déclarations du président du Sénat et son entêtement, son arrogance, sa persévérance même quand il savait bien qu'il n'était pas dans le bon chemin du droit. Donc la RDC vient de se réveiller et je crois à mon avis qu'il s'agissait en réalité d'un coup d'État constitutionnel manqué, heureusement pour notre.
Mais professeur Mbata, pourquoi à chaque fois qu'il y a un problème politique qui se pose, finalement il y a des interprétations diverses de la Constitution, des articles de la Constitution, où carrément chacun tire les draps de son côté selon ses convictions politiques? Parce que là, finalement, il y a les uns qui font de leurs argumentaires sur l'article 85. D'autres nous font croire qu'il ne faudrait pas isoler simplement l'article 85. Il faut plutôt évoquer l'article 144 et aussi l'article 145 de la Constitution et même l'article 116.
Mon cher ami, voici ma réponse. Le problème, c'est que vous ne suivez pas. J'ai l'impression que personne ne me suit. Parce que Christian Bekende est clair. Tout le monde n'est pas juriste. Est-ce qu'on va le comprendre au moins aujourd'hui? Tout juriste, mais le droit, les gens ont passé des années à l'étudier, à l'université, à l'enseigner. Ce n'est pas un sociologue qui va interpréter le droit. Ce n'est pas un mécanicien qui va interpréter le droit. Donc, tout tout le monde n'est pas juriste, il faut que les Congolais comprennent une fois pour toutes. Et quand vous aurez compris cela, il faut comprendre pour celui qui a fait le droit, maître, avocat, chercheur, tout le monde ne peut pas être contre la liste. Et je veux être plus clair, je l'ai dit déjà plusieurs reprises. Tout professeur de droit, je parle, je suis professeur de droit, tout professeur de droit n'est pas constitutionnel.
Oui, mais alors allons tout droit au but. Qu'est-ce qu'on attend par état d'urgence?
Il le faut, c'est un peu. C'est le média qui mettait. Vous mettez un peu de la confusion dans tout le monde, parce que à vos émissions, lorsque le docteur Mouyen de Tam, mais il parle de la médecine, tout le monde ne voit pas. Mais quand il faut parler de questions juridiques, vous recevez, c'est tout le monde qui peut parler.
Mais allons-y maintenant, parce qu'on y est. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre sur l'état d'urgence? Quelles sont les conditions et les modalités de déclaration d'état d'urgence? Oui.
Voilà, l'état d'urgence, je dois dire que c'est un état qui est exceptionnel, qui déroge un peu. Qui déroge, mais c'est un état légal. Il est illégal, pourquoi? Parce que l'état d'urgence ou l'état de siège est prévu par la Constitution que le peuple lui-même s'est donné. Donc, il déroge à certains principes. Et l'état d'urgence, on vous a dit, dans le cas de la RDC, vous avez les articles 85, l'état de siège 86, vous avez les articles 143, état de siège, 144 et 145. Donc, vous avez là des dispositions qui régissent l'état d'urgence pour l'état de siège. L'état de siège pour le commun des mortels, c'est quand le pays, par exemple, fait face à une attaque armée, une insurrection armée, une invasion, là, on peut proclamer l'état de siège. Et à ce moment, pendant l'état de siège, vous verrez même les compétences des autorités civiles qui sont données aux autorités militaires. On peut mettre, au lieu de gouverneurs de province, on met des gouverneurs militaires pendant l'état de siège. L'article 146. Cet état de siège ne peut être proclamé qu'après, le secrétaire Bosselet a dit, après l'autorisation du Parlement. Maintenant, l'état de siège qui est prévu par l'article 144, 85, 144, 145, on prévoit que vous avez évoqué l'article 119, c'est lorsqu'il y a des circonstances qui menacent, qui mettent la nation en péril, comme le cas
qu'on décrète l'état d'urgence.
Là, le président a pu déclarer l'état d'urgence après de consulter avec le premier ministre, avec le président des deux chambres, et il peut déclarer l'état d'urgence comme il avait fait le 24 mars. Et l'état d'urgence a des implications. Et je crois que le reste du débat est clos. Le président n'a pas besoin d'autorisation du Parlement. Tout ce qu'on a dit, là, qui sont des...
Alors, en des termes clairs, professeur, en des termes clairs, pendant l'état d'urgence, quelles sont les prérogatives des institutions de la République? En d'autres termes, quel est le rôle que joue le Parlement et quel est le rôle que joue la présidence de la République ou le président de la République?
C'est-à-dire, quand l'état d'urgence est proclamé, et l'article 44 le dit, et 144 le dit, les deux chambres se réunissent. Elles se réunissent, si elles sont en vacances, ils sont rappelés, les deux chambres se réunissent. Ici, pendant l'état d'urgence, comme il y a urgence, donc la nation est en péril, le président de la République, chef de l'État, celui qui assure la continuité de l'État, il prend des mesures. Mais ces mesures-là doivent être déclarées conformes à la Constitution par l'autorité compétente pour le faire.
Qui est la Cour constitutionnelle.
C'est la Cour constitutionnelle comme la filière. Oui, il n'y a pas une autre personne. Ce n'est pas le président du Sénat. Ce n'est pas un individu qui vient vous dire non, c'est un état de fait, il a duré la Constitution, mais vous ne pouvez pas vous substituer à une institution établie comme la Cour constitutionnelle et dire le droit à la place. Mais c'est très grave. Donc, quand maintenant c'est fait, le président a pris une ordonnance, il y avait des débats avec des pseudo-juristes, avec des constitutionnalistes qui ont proclamé, vous en avez des milliers au Congo, il y en a tous les jours qui tuent. On croit que le droit constitutionnel, c'est le journalisme constitutionnel. Mais la Cour constitutionnelle a mis fin au débat. Là, l'ordonnance du président de la République est conforme à la Constitution. Et alors, on peut continuer. Mais alors, il y a d'autres questions qui ont été soulevées.
Mais la Cour n'a pas interdit la tenue du Congrès. La Cour n'a pas interdit la tenue du Congrès. La Cour n'a pas interdit la tenue du Congrès. À lire exactement cet arrêt.
La Cour n'a pas interdit. Je vous réponds. Mais lorsque la Cour dit que l'ordonnance est conforme à la Constitution, et l'ordonnance, M. Christian Bossembe, qui est un juriste, est une injure aux journalistes, vous l'a dit, l'article 3 de l'ordonnance interdit de rassemblement de plus de 20 personnes dans les endroits publics. Le palais du peuple est un endroit public. Vous allez vous réunir à plus de 20. Vous allez donner l'ordonnance. Et maintenant que l'ordonnance a été déclarée conforme à la Constitution, vous allez violer la Constitution et même personne ne va vous l'autoriser.
Merci.
Je vais vous dire qu'il peut y avoir la tenue du Congrès. Le Congrès peut se tenir quand il faudra que le président de la République, dès lors que l'ordonnance a été déclarée conforme à la Constitution, il faudra, et si c'est possible, si je veux, c'est une alternative, il faudra, si on n'a pas revu l'article 3 de l'ordonnance qui interdit le rassemblement de plus de 20 personnes, il n'y aura pas de congrès.
Mmh. Voilà. Alors, professeur, nous vous gardons en ligne. Le temps... Oui, professeur, nous vous gardons. Oui, professeur, nous vous gardons en ligne. Il est temps d'accueillir d'autres auditeurs qui nous ont rejoints également à ces débats pour échanger sur la sortie de la Cour constitutionnelle. Est-ce que cela annonce une crise latente ou on y est déjà? 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Nous tenons à rassurer nos compatriotes de garder le calme en respectant les mesures d'hygiène suivantes. C'est laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les personnes qui toussent ou qui éternuent. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. En cas de toux ou éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli de coude ou avec un mouchoir à jeter immédiatement après utilisation.
Ceci est un message du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue Simon Tsiloulou à Matadi. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous nos auditeurs, et également bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent comme invités ou intervenants. En fait, mon cher, ici où je suis, c'est sur l'actualité de notre pays, seulement parce que je refuse de pleurer. Sinon, il y a lieu de pleurer. On se demande si vraiment on a des dirigeants. Vous imaginez le contexte actuel. Mondialement, les gens ne voient qu'une seule personne ennemie du peuple. Mais en République démocratique du Congo, je vous dis, c'est le moment où on a choisi de faire des spectacles différents afin de mettre le peuple dans la distraction et puis l'ennemi entre nous ravage tout le monde. C'est pour cela que je me pose la question. Si dans les institutions, nous avons réellement les gens qui sont réellement des Congolais. Parce que si on est Congolais, vous voyez les pays comme la France, il y a des choses stratégiquement constitutionnelles qui devraient être faites. On a mis de côté. Mais si la France est à grande démocratie, à vieille démocratie, ils arrivent à annuler certaines dispositions de leur loi. Parce que le danger est déjà dans les camps. Mais c'est le point où certains présumés congolais prennent comme de troubler la population qu'il y ait vice ou qu'il n'y ait pas vice. Le moment n'est pas celui-là. Le moment, c'est... Quand vous voyez, moi, j'ai fait un peu une petite expérience et des petits calculs. La sixième semaine, que ce soit en Italie, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. La sixième, c'est une semaine de tempête. Et nous entrons dans cette semaine-là, à bientôt des tempêtes. Et c'est le moment où les élus du peuple sont, semble-t-il, être. On choisit pour déranger. Je vous dis, si aujourd'hui le Congrès se tient, aucun message du gouvernement sera encore pris
en considération
dans cette nation. Les églises, nous allons ouvrir. Et si le Parlement ou le gouvernement cherchera à faire guerre contre la population, là, en tout cas, on va y arriver. Parce que comment ils veulent se réunir sur quelque chose d'évitable? Est-ce
se réunir à ce moment pour faire ce qu'ils pensent faire. C'est vraiment urgent.
Donc vous estimez que c'est inopportun.
La porte quoi? Porte quoi ce congrès? Qu'est-ce qu'il va porter par rapport au freinage des chaînes de contamination de coronavirus? Est-ce que ça va réduire le nombre de contaminés? Est-ce que ça va réduire le nombre de morts? Ou est-ce que ça va augmenter le nombre de guéris? Si ça ne répond pas à ce dirigeant, à ce questionnement.
Merci beaucoup, Simon Tsilulu, d'avoir appelé de Matadi. Eli Lokwa, vous nous avez rejoint, vous êtes en Bandaka, bonjour.
Oui, bonjour Radio Capi. Je salue mon professeur qui est l'invité, professeur André Mbata, à qui j'ai des bonnes considérations. Je salue toute personne. En tout cas, il y a deux éléments importants sur lesquels je vais m'appuyer aujourd'hui. Le premier des éléments est l'élément de procédure. Et le deuxième et le dernier, en tout cas, c'est l'élément des circonstances. Aujourd'hui, vous allez comprendre que dans la question des procédures qui est hier, la constitution de la République démocratique du Congo a été intentionnellement violée par le président de la République. Si vous êtes, vous allez comprendre avec moi ensemble, je pense que vous avez la constitution et toute personne congolaise détient cette constitution aujourd'hui, l'article 119 de la constitution. Il est dit, les deux chambres se réunissent en congrès pour les camps suivants. Je n'ai pas cité le premier camp, mais le deuxième camp. C'est pour l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège, de l'état de la déclaration de guerre, conformément aux articles 85 et 86 de la Constitution. C'est-à-dire, le président de la République, en conformité avec l'article 87 de la Constitution, il doit proclamer l'état d'urgence par rapport à une circonstance qui peut créer des dégâts dans une nation. Mais il ne peut pas proclamer cet état d'urgence sans devoir avoir l'autorisation par le Parlement réuni au Congrès. Ça, c'est la Constitution de la République.
Mais alors,
le professeur ainsi que d'autres intervenants qui sont juristes vont nous ramener à la théorie des constitutionnalistes, la théorie des juristes. Mais lorsque vous faites interprétation d'un article de la Constitution, il faut mutu proprio les combiner de toutes les façons avec certains articles pour avoir une meilleure interprétation. Mmh. Et je pense qu'on doit
constitutionnel. Oui, là vous avez évoqué en termes de procédure. Alors en termes de circonstances.
En termes de circonstances
maintenant.
Oui, écoutez, je vais arriver dans la partie circonstancielle. C'est-à-dire l'interprétation aussi, surtout l'interprétation systémique. Il faut combiner les articles pour avoir une bonne interprétation. Alors, vous allez comprendre que dans la question des procédures, il y a eu usage, n'est-ce pas, abusif par la décision du président de la République, une décision de mutu proprio, sans tenir compte des exigences constitutionnelles. Alors, deuxième élément, c'est celui de la circonstance actuelle. Tellement que dans l'ordonnance du 20 mars 2020, proclamant l'état d'urgence en République démocratique du Congo, en son article, je pense, en son article 3, il y a eu l'interdiction des activités au sein des universités, l'interdiction des rassemblements de plus de 20 personnes, l'interdiction des voyages de Kinshasa province et province de Kinshasa, oui, effectivement. Et donc aujourd'hui, la tenue des congrès à Kinshasa, qui va réunir en fait plus de 600 à 800 personnes, en tout cas, c'est un danger permanent pour la propagation du virus. Alors, pour conclure, JR, il y a un élément de quintessence. Il ne faut pas que les gens nous ramènent parce que la Cour constitutionnelle avait pris un arrêt qui est inattaquable. Il faut que nous puissions, de toutes les façons, nous soumettre à cet arrêt parce que la Cour a rendu sa décision. Vous allez vous référer parce que l'histoire va nous dire des choses parce que vous allez vous référer
la jurisprudence
qui est interprétée par la
l'article
Cour constitutionnelle
de
Kabila aujourd'hui. Il y a eu une interprétation abusive de l'article 70 alinéa D, laissant l'ancien président de la République en fonction d'une manière inacceptable. Ce n'est pas parce que la Cour a rendu son arrêt et que nous devons nous soumettre à cette décision. Oui, bien sûr, parce que c'est la loi qui
l'est dit.
Mais rentrons dans les restants des humains. On ne peut pas parler de la situation actuelle, parce que nous sommes tous des politiciens, non. Il faut tenir compte des exigences juridiques. Juridique.
Merci beaucoup.
Parce que l'article 119,
voilà, Eli, on va
notre professeur André Mbata.
Voilà, je comprends aussi votre souci parce que vous l'avez évoqué en deux temps. Il y a la procédure et la circonstance, deux éléments importants dans vos propos. Merci beaucoup, Eli. Djuma, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, monsieur. Comment vous allez?
Vous êtes ancien conseiller à la Cour constitutionnelle et vous êtes actuellement avocat au barreau de Kinshasa. Est-ce qu'il y a-t-il des bonnes raisons qui ont poussé les présidents du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale de convoquer les congrès?
Bon, écoutez, dans cette matière, il faut rester équilibré. Parce que le président du Sénat n'a pas totalement tort. Mais sauf que la disposition pour laquelle elle se fonde, elle ne peut pas être prise de manière personnelle. C'est-à-dire quoi? L'article 85, l'article 119, lequel article le président du Sénat faisait allusion, il est bien mentionné que les deux chambres se réunissent en congrès pour obtenir l'autorisation afin que le président de la République puisse déclarer l'état d'urgence. Ça, c'est une disposition
légale.
Constitutionnelle, légale. Personne ne peut contredire. Mais l'article 85 vient encore heurter l'article 119 de la manière dont il est bien explicité que le président de la République va devoir déclarer l'état d'urgence après concertation du premier ministre et de deux présidents de deux chambres réunies. Alors, vous allez comprendre, il y a collision entre ces deux dispositions constitutionnelles. Mais à ce jour, est-ce qu'il y a lieu encore de continuer à débattre autour de cette question? Non, parce que la Cour constitutionnelle
a tranché.
Venait de rendre un arrêt sur lesquels cet arrêt-là est inattaquable et susceptible d'aucun recours. Donc nous devons maintenant, nous tous, nous plier devant cette disposition. Mais il ne faut pas prendre M. Tambo Mwamba comme un fou. Non, il faut lire in extenso cette disposition de l'article 119. Mais cependant, il y a quelque chose de très déplorable.
Ben, juste une question de curiosité, M. Djuma. Nous sommes au 15 mars. Il y a la rentrée parlementaire. Monsieur Alexis Tambwe Mwamba déclare qu'il ne pourrait pas poursuivre les plénières si jamais le gouvernement ne prenait pas au sérieux les dangers auxquels fait face la République démocratique du Congo. Unilatéralement, il ferme le Sénat en collaboration avec la présidente de l'Assemblée nationale. Et comment voulez-vous que ces deux institutions, disons cette institution, puisse obtenir l'autorisation, la demande du chef de l'État leur demandant l'autorisation dès lors qu'il n'y siégeait pas? C'est ainsi que l'article 119 a été appliqué. Dans le cadre de la concertation, nous avons tous suivi la télévision. Le chef de l'État a reçu les deux chambres pour leur demander de faire un message. Et je me rappelle, à la sortie de cette audience, Madame Jeanine Mabunda a dit la primaire reste, disons, l'annonce de cette rencontre, de tout ce qui était dit dans cette rencontre, sera annoncé par le chef de l'État dans les heures qui suivent. Et dans les heures qui suivent, le chef de l'État a annoncé l'état d'urgence. Alors comment comprenez-vous cela?
Mon cher, il faut dire d'abord, avant que j'aborde cette question-là, M. Tambwe Mwamba, le président du Sénat, c'est une réserve constitutionnelle et que nous déplorons de sortir.
Oui, ne faisons pas de jugement des valeurs, Djuma. Djuma, ne faisons pas de jugement des valeurs. Allons droit au but. Est-ce qu'il y a une concertation, oui ou non?
Il y a un problème maintenant qui se pose, c'est la continuité de cet état d'urgence. Parce que si vous lisez l'article 144, on dit... L'état d'urgence et l'état de siège peut être proclamé sur... Attends, alinéa 4, hein, l'article 144. L'ordonnance proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai prévu alinéa 3. Donc c'est-à-dire après un délai de 30 jours, il est censé de plein droit que cet état de siège, cet état d'urgence soit mis fin. Mais quelle est maintenant l'approche constitutionnelle par rapport à cela?
Le chef de l'État
revenir, la Constitution prévoit que le chef de l'État puisse saisir le Sénat et l'Assemblée nationale
afin pour solliciter de la prorogation
ce délai de 15 jours. Mmh. Alors, en sollicitant cette prorogation, est-ce qu'il doit y avoir un congrès ou soit il doit y avoir...
Voilà, la question du débat est lancée. Oui. Merci beaucoup, Djouma. Antoine, vous êtes à Bounia, vous gardez la ligne. Nous revenons à vous, professeur Mbata. Vous êtes en ligne.
Bonjour.
Oui. Bonjour. Alors, vous avez suivi les compatriotes. Quelle est votre réaction, professeur Mbata?
Bon, ma réaction est d'abord la suivante. Je suis constitutionnaliste, professeur des universités. Qualifier M. Tambo à des réserves constitutionnelles, ça me fait rire.
Oui, c'est pas un débat, c'est pas un jugement de valeur. On risquerait de tomber dans le jugement de valeur. Professeur Mbata, quelle est votre réaction en termes de droit?
Il ne faut pas induire les gens en erreur. Deuxième chose, lorsque la Cour constitutionnelle a tranché, il a tranché. Et puis vous voyez, comparez les articles 86. L'article 86 dit que pour l'état de siège, c'est après l'autorisation. L'article 85 qui vient après 119. Ne parle pas de l'autorisation. On est en train de parler de quoi? C'est à tout le problème de débat entre les juristes. L'autre ami de Mbanda, quand me donne l'impression, il connaît le cours d'interprétation constitutionnelle. C'est un cours à l'université, cher ami. Ce n'est pas tout le monde qui peut interpréter la Constitution. Donc, je dois dire une chose ici. La Cour a tranché, on est vrai, ça devient le problème des académiciens. Mais ce qu'on doit souligner, c'est ceci. M. Tambwe Mamba n'est pas le Sénat. Il est le plénière du Sénat. Si tu es membre d'un Sénat, tu ne peux pas te prendre pour le Sénat, mais le Sénat, c'est après 120 sénateurs. Il fallait, est-ce qu'il les a réunis? Est-ce que son point de vue là? Est-ce que c'est le point de vue du Sénat? Est-ce qu'ils se sont réunis? On ne peut pas prendre le point de vue de l'individu pour celui du Sénat. Deuxième chose, c'est que M. Tarim Mamba a fait, c'était une plage, c'était une offense au chef de l'État. Et le procureur, j'ai appelé la Cour de cassation, devait le poursuivre en justice, c'est parce qu'il y a des délits d'urgence. Parce que cadre se substituer à la Cour, carroger les pouvoirs de la Cour constitutionnelle pour dire que l'acte du chef de l'État est inconstitutionnel, s'empêter, persévérer même là-dedans qu'on va convoquer, et tout dire que le chef de l'État a donné la conduite, c'est un outrage, c'est une infraction dans notre droit. Et lorsque nous parlons état de droit, je crois que le procureur de l'État, la Cour de cassation, devait se dire de cette affaire, il y a urgence, il y a offense envers un chef d'État élu, un chef d'État qui représente la nation, et quand il y a offense au chef de l'État, c'est offense à la nation tout entière. Cet acte ne doit pas être banalisé. Et ce n'est pas quelqu'un qui maîtrise le droit constitutionnel qui va, comme ça, manquer de la Constitution. Donc,
voilà. Merci beaucoup, professeur Mbata, parce que je vois il y a l'honorable Denis Sessanga qui nous a rejoint dans ce débat. Honorable Denis Sessanga, vous êtes avec nous en ligne.
Oui, bonjour.
Alors, avec vous, quelles sont les conséquences de l'état d'urgence? Parce que vous l'avez publié dans un papier, sur un papier que vous avez autour de cette question, lorsque vous avez appris que la Cour constitutionnelle s'est prononcée par rapport à cette situation.
Ben, je crois d'abord qu'on a fait beaucoup de foin pour rien sur cette question, parce qu'elle me semblait d'une clarté et d'une évidence stupéfiante par rapport aux affirmations des uns et des autres. Et je vais d'abord rappeler que, comme président de la PAJ, à l'époque, cette question avait été réglée. Et je prends à témoin Maître Ekombe, qui était mon partenaire dans ce combat, qui était président de la commission PAJ au Sénat. Nous avions été saisis en date du 18 avril 2008 par la lettre du président qui nous avait transmis un arrêt de la Cour, l'arrêt R cons 061. J'ai devancé à mes yeux parce que j'ai gardé toutes les archives. Et dans cet arrêt, la Cour avait développé déjà sa position en ce qui concerne la proclamation de l'état d'urgence. Et donc il faudrait qu'on ait dans notre pays le sens de l'État à pouvoir appliquer les règles de manière impersonnelle. Chaque fois que nous voulons tripatouiller ou interpréter à notre guise les règles pour les adapter à un contexte politique, en ce moment-là nous faisons fausse route. Le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale auraient été inspirés de fouiller dans les archives de l'Assemblée nationale, parce que moi, c'est le président Vital Kamerhe qui m'avait transmis la lettre, je l'ai devant moi, j'ai l'arrêt, et ce que j'ai publié correspond justement à la position de la Cour. Il y a une condition de fond, et c'est ce que la Cour a réaffirmé hier, l'existence de la crise. Il y a une condition de forme, c'est la concertation avec le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. le pouvoir de proclamer l'état d'urgence reste un pouvoir propre du président de la République et à ce titre, le président le proclame. Lorsque les 30 jours se sont épuisés, les ordonnances tombent et en ce moment-là, pour la prorogation, on peut, si le président le désire et sur sa saisine, demander au Congrès de pouvoir autoriser la prorogation. Mais on ne peut pas considérer que la proclamation de l'état d'urgence soit une décision qui soit insérée dans une consultation indéfinie. D'autant plus que la Constitution elle-même envisage le cas où le président de la République proclame l'état d'urgence alors que les chambres ne sont pas en session. Ça voulait dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que en ce moment-là, le président proclame l'état d'urgence, les chambres se réunissent de droit. Ça ne veut pas dire si la Constitution avait voulu que ça soit une autorisation. On aurait écrit que le président convoque les chambres, il obtient l'autorisation, en ce moment-là, il proclame. Donc, ça, je clôt ce débat. La conséquence de l'état d'urgence, il y en a deux. La première, c'est que l'état d'urgence, qu'on le veuille ou pas, accroît le pouvoir du président de la République qui, par ordonnance délibérée en Conseil des ministres, prend les mesures nécessaires pour faire face à la crise. Ces mesures sont contrôlées par la Cour constitutionnelle parce qu'elles font l'objet d'un contrôle de constitutionnalité et conformité à la Constitution pour notamment vérifier qu'elles ne dérogent pas à l'article 61 de la loi. La deuxième, vous savez, à l'article 61 pour les auditeurs, c'est un noyau dur des droits de l'homme sous lequel, en tout cas même en état d'urgence, en cette exception, on ne peut pas revenir. Ensuite, la deuxième conséquence, c'est le fait que le fonctionnement du Parlement, le Parlement, s'il est en vacances, les chambres se réunissent aussitôt, s'il est en session, et les chambres sont saisies, donc il n'y a rien à faire. Les chambres peuvent arrêter un état d'urgence si elles considèrent que celui-ci n'est pas fondé, qu'il n'y a pas de raison. En ce moment-là, ils prennent une loi pour arrêter l'état d'urgence. Mais je pense que personne n'a la folie en ce moment de pouvoir arrêter l'état d'urgence, c'est une évidence absolue. Ensuite, lorsque les 15 jours se terminent, les 30 jours, on peut allonger dans les 15 jours. En ce moment-là, les chambres peuvent agir en concours avec le
président. Mais pour les cas d'espèce, à l'expiration de 30 jours, est-ce que les chambres peuvent se réunir en congrès?
Absolument. Donc,
plus de 500 personnes, malgré le... Bon, au fait, l'ordonnance tombe.
Je vous parle du droit. Mm-hmm. Par rapport à la situation, il faudra prendre des dispositions pratiques par rapport à ceux... En considérant est-ce que c'est possible ou ce n'est pas possible, il y a des circonstances exceptionnelles qui peuvent expliquer que le Parlement se prononce dans des formes particulières, ça il faudra pouvoir encadrer, mais si les parlements, parce que là il faut insister aussi sur une chose, si pendant l'état d'urgence on demande à ce que les chambres reviennent, c'est pour une raison. Ce n'est pas une raison de dire on va contrôler l'activité de l'exécutif, non, c'est pour l'équilibre de pouvoir. Les chambres reviennent pour simplement...
Et s'il y a une motion, s'il y a une motion incidentielle qui intervient dans la session?
Non, mais je vais y venir. C'est pour s'assurer que, quand elles sont réunies, le président de la République, pendant cette période, un, ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, deux, assurer que les assemblées ne sont pas congédiées ad vitam aeternam. Donc, l'Assemblée existe et l'équilibre de pouvoir est là. Et c'est pourquoi l'Assemblée va apporter son concours à des prorogations qui seraient faites. Donc, il faut qu'il y ait la discussion. J'ai appris que le président de la République reçoit le président du Sénat et de l'Assemblée aujourd'hui, ce qui est une très bonne chose. Et donc, il faut que par ce dialogue institutionnel, on puisse maintenant planifier comment on va pouvoir y aller. Et se concentrer réellement sur les mesures qui doivent être prises pour pouvoir endiguer la crise. Je pense même que l'arrêt de la Cour a fait une concession majeure à l'Assemblée nationale parce qu'elle a réaffirmé sa position de 2007 et elle affirme qu'il y a une alternative, c'est-à-dire qu'on peut solliciter l'accord. Mais en réalité, quand on analyse les deux, ça veut dire que le président de la République est maître de cette disposition. Alors, il ne faudrait pas analyser une disposition par rapport au président en fonction. Parce qu'à l'époque, quand ça a été dit, c'était Joseph Kabila qui était en fonction. Il aurait été confronté au même risque que nous nous serions retrouvés dans le même cas et que nous aurions été obligés
d'accepter. Je pense que la Cour a joué effectivement son rôle et il faut l'en féliciter.
Merci beaucoup, honorable Sesanga, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Antoine, vous êtes à Bounia, rapidement, si vous pouvez placer les mots.
Bonjour, JL, vous me recevez?
Oui, allez-y, rapidement, en une phrase.
Je suis tout à fait d'accord avec Denis Sesanga et vous-même, vous venez de le dire. Il y a eu consultation avec le président
du Sénat et de... Voilà.
Le président Tambwe Mwamba avait fermé unilatéralement la session. Et si nous lisons intégralement l'article 85, je ne vais pas le lire, j'ai l'article
devant moi. Oui, cela a été dit. Cela a été dit.
Il en informe la nation par un message.
Voilà, cela a été dit et les juristes l'ont dit également tout au long de cette émission. Merci beaucoup, Antoine. Alors, professeur Mbata, juste un mot en conclusion, après avoir écouté la dernière série.
Bon, moi, je crois que la décision qui a été prise par la Cour, c'est une décision qui va dans le sens du respect de la Constitution. Il faut dire que l'état d'urgence est proclamé actuellement dans plus de 20 pays africains. Il n'y a pas tout ce débat-là à déformer. Parce que la nation est en péril. Eh bien, vouloir aujourd'hui mettre un terme à l'état d'urgence, ben, ça ne peut être que relever le fil de l'inanition de la nation. On ne doit pas tuer la nation. Il faut qu'on respecte l'état d'urgence. Effectivement, je dis, on ne voit pas, le débat était clos. Ce qui reste, c'est entre l'académicien, donc l'état d'urgence est constitutionnel, le président a dit suivant la Constitution, le président du Sénat, tout au moins, il devait présenter des excuses à la nation pour les propos qui ne peuvent être possibles. Il doit présenter des excuses.
Mais pour le cas d'espèce, il venait de le dire, c'est Denis Sesanga, au cas où les 30 jours arrivaient à expirer, je crois que l'ordonnance du chef de l'État tombe. Et pratiquement, il faut qu'il sollicite le Congrès de la prorogation. Donc, Tambwe Mwamba n'a pas tort, n'a pas du tout tort à 100%.
Denis Sesanga, l'honorable Sesanga a totalement raison. Il a totalement raison. Lorsque les 30 jours, avant les 30 jours, le président peut convoquer, mais ce sera sur un ordre du jour bien précis. Pas pour avoir.
Oui, pour la prorogation.
Et venir autoriser le président. Non, pour la prolongation, oui. Il a totalement raison.
Mais oui, alors le débat n'est pas le Congrès, l'opportunité ou non, parce que la Constitution, évoque cette possibilité de pouvoir convoquer le Congrès. En tout cas, après 30 jours, qui intervient d'ailleurs d'ici au 20 avril.
Nous avons encore une dizaine de jours devant nous. Le président de la République, le président respecte la Constitution. Il va sûrement, il y a des jours qui restent, il va se conformer à la Constitution dans l'intérêt du peuple congolais.
Merci beaucoup, professeur André Mbata, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission et d'échanger sur l'opportunité ou non du Congrès et l'état d'urgence qui, donc, pour d'aucuns, est resté très constitutionnel. Une fois encore, merci et à très bientôt. Nous disons également merci à tous d'avoir participé à ce débat, à cet échange citoyen et qui a bénéficié du concours à la réalisation de William Lungamba et de Tati Emakpuku. J.R. Lungembo, Luabung Anji était à la présentation et à la coordination de cette émission. On prend rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs.
Parole aux auditeurs que vous venez de suivre était une rediffusion.